7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle des enfants maltraités. En France, un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de sa famille, selon un rapport rendu public ce printemps de l'Inspection Générale des Affaires Sociales qui a travaillé avec la justice, avec l'éducation nationale. Plus de la moitié de ces enfants sont des bébés de moins d'un an et les chiffres sont probablement largement sous-estimés. Le sujet fait tellement frissonner finalement que le tabou demeure, contrairement aux femmes battues dont la parole est largement plus médiatisée. Il faut dire aussi que les enfants ne parlent pas de ces choses-là. Et puis, le droit à la vie privée, cette idée reçue aussi des sociétés modernes que chacun élève finalement ses enfants comme il le souhaite, empêche une prise de conscience générale. Il y a aussi les défaillances et le manque de moyens des services sociaux, de la justice. Alors, comment protéger les enfants des violences physiques, psychologiques, sexuelles? Pour en parler, je reçois Adrien Taquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire d'État à la protection de l'enfance auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Vous allez nous dire où en est l'action du gouvernement depuis le lancement de la concertation sur la protection de l'enfance en mars dernier. Vous allez nous annoncer d'ici quelques semaines, je crois, une feuille de route gouvernementale avec des mesures précises, mais vous allez déjà nous expliquer un peu vers quoi on s'oriente et les mesures à prendre en priorité. Également avec nous, deux associations. Martine Brousse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'association La Voix de l'Enfant. Vous publiez d'ailleurs avec la comédienne Carole Bouquet « Enfants maltraités, occupons-nous de ce qui ne nous regarde pas » aux éditions Cherche Midi. Yves Crespin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat de l'association L'Enfant Bleu, des associations qui se portent régulièrement pour tous les deux, partie civile dans de nombreux procès, quand procès il y a bien sûr. Thierry Beccaro également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un célèbre animateur télé, vous êtes l'un des rares adultes célèbres dans son pays à avoir raconté publiquement les mauvais traitements subis durant votre enfance. Vous avez publié « Je suis né à 17 ans » aux éditions Plomb, et précisément quand vous avez pu vous libérer d'un père violent, vous êtes aujourd'hui ambassadeur de l'UNICEF. Vous pourrez d'ailleurs nous dire ce qu'a apporté votre parole publique dans ce débat et les réactions que vous avez eues, parce que ça n'est pas si courant que cela. Et quant à vous, les voisins, les voisines, appelez-nous si vous avez été confronté en tant que citoyen à l'enfance maltraitée. Dites-nous quelles sont les mesures prises dans votre pays, le travail des associations au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi notre numéro WhatsApp pour nous laisser des messages.
Emmanuel Fouda Aïda depuis Yaoundé au Cameroun. La violence sur les enfants est la chose la plus horrible qui puisse se faire dans notre humanité. Parce qu'un enfant, c'est celui qui ne peut pas se défendre, même qui ne sait pas se plaindre, mais qui subit toutes ces violences qu'on a citées, qui vont jusqu'aux violences sexuelles et qui peuvent traumatiser à vie. Parfois, ça se transmet. Un papa, une maman a subi des violences et des frasques les plus incroyables. Alors, il y a comme une répercussion. Généralement, en Afrique, en particulier ici chez nous au Cameroun, on ne compte pas de cabinets, de psychologues, de psychiatres. Oui, on a un ministère des Affaires sociales qui a un impact sur le volet social, sur les enfants qui errent, sur les enfants de la rue, sur les enfants qui sont portés disparus. Et vraiment, à ce niveau-là, on a commencé à ressentir l'impact au Cameroun. Mais il faudrait vraiment encourager l'ouverture des centres d'écoute, l'ouverture des cabinets de psychiatrie, des psychologues et autres. Sinon, ce sera terrible. Même là où il y a, dans des pays structurés, développés, des cabinets en psychologie, des psychiatres et tout, il y a des problèmes assez profonds. C'est pas pour dire que ça résout les problèmes, parce qu'on a toutes ces structures-là, mais c'est pour dire qu'il faut toute une organisation en termes d'écoute et de prévention. Il y a pas mal de travail à faire et nous tous, nous sommes impliqués. Merci.
Voilà, on l'entend bien, hein, des professionnels qui travaillent dans un monde relativement proche des enfants qui se posent aussi les mêmes questions que nous dans un pays comme le Cameroun. On a aussi un message de Babacar à Tambacounda au Sénégal qui nous dit « La violence n'est pas que physique. Pour moi, la plus grande violence, c'est quand un enfant grandit et qu'il se rend compte qu'il n'a pas d'état civil. Il ne peut ni aller à l'école et il reste un étranger dans son pays. Il est apatride, il n'y a rien de plus violent. Une vie brisée, constate Babacar. Et puis il y a aussi Dupont qui est à l'est de la RDC, à Goma. Chez nous, les enfants battus fuient dans la rue, mais c'est pire. Quelques centres encadrent ces enfants, mais c'est plus pour récolter des dons. L'argent récolté sert davantage les encadrants du centre que les enfants eux-mêmes. » Ça, c'est pour vous, Martine Bruce, parce que l'association La Voix de l'Enfant a des projets déjà en route pour la RDC. Et il pose une question toute simple, Dupont, qu'on est nombreux à se poser. Qu'est-ce qui pousse un parent à maltraiter son enfant? Est-ce que vous pouvez répondre, Martine Bruce, avec toute l'expérience que vous avez à l'association La Voix de l'Enfant?
Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui
un parent à maltraiter son
enfant? Parce que, avec Yves, entre autres, puisque ça fait maintenant plus de 15 ans que nos associations travaillent ensemble et que nous sommes présents, comme vous l'avez rappelé, en tant que partie civile, dans des procès, chaque situation est unique. Il y a quelques éléments, et Yves me complétera. C'est vrai, votre premier intervenant a parlé de la répétition. Nous avons, dans ces situations de parents maltraitants, des parents qui ont été eux-mêmes victimes. Nous avons aussi des parents qui sont malheureusement, j'ai envie de dire, c'est pas que nous voulons attaquer l'aide sociale à l'enfance, mais qui sont passés par cette structure. C'est le système, ce sont pas les personnes qui sont à l'intérieur de l'aide sociale à l'enfance, mais c'est le système qui dysfonctionne par rapport à l'accueil et à ce que l'enfant a besoin, et comme le rappelle la loi de 2016, son article 1, partir des besoins fondamentaux de l'enfant et pas de la famille. Donc, c'est vrai que dans une majorité de situations, nous avons des parents qui soit ont été victimes eux-mêmes, soit ont eu des carences telles affectives que seule la violence est leur moyen de communiquer. Et puis aussi, il y a une évolution, alors il y a d'autres raisons, mais une évolution des nouvelles technologies. Et les derniers procès où nous étions partie civile avec Yves et l'enfant bleu, et la voix de l'enfant, nous sommes partis dans des procès où des pères ont frappé sur leur enfant jusqu'à les tuer parce qu'ils étaient dérangés en jouant à la Game Boy, parce qu'ils étaient dérangés parce qu'ils faisaient des jeux en réseau et que le fait qu'il fallait se lever et donner le biberon à l'enfant, ils dérangeaient, ont commencé à le frapper. Et je crois que c'est là où, et je sais que notre secrétaire d'État, ministre Adrien Taquet, va nous apporter, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais en tous les cas, dans les mois à venir, des réponses par rapport aux sollicitations que nous lui avons présentées, pour justement repérer et faire de la prévention, former et prévenir.
Thierry Beccaro, vous êtes avec nous aujourd'hui et merci d'être dans l'émission en direct. Près d'un Français sur quatre dit avoir subi des maltraitances dans son enfance. Est-ce que vous pourriez expliquer brièvement à nos auditeurs ce que signifie la violence quotidienne d'un père maltraitant? Ça a été votre cas et vous êtes l'une des rares paroles publiques à accepter de faire comprendre aussi comment ça marque à vie.
Oui, j'ai gardé ce secret, on va dire, pendant 35 ans. J'ai rencontré Martine Bruce il y a quelques années, c'est là où ça devient intéressant pour parler de la voix de l'enfant. J'étais avec Carole Pouquet sur le plateau de Matin Bonheur, et j'étais, pour Martine et Carole, j'étais très impressionné par la beauté de Carole Pouquet, mais moi je savais déjà de quoi il était question. Et ce qui est intéressant dans ce que vient d'évoquer Martine, dans ce qu'on évoque, c'est que la maltraitance dont j'ai été victime, c'était une maltraitance irrégulière. Mon père avait sa propre histoire, et c'est ça qui est intéressant quand on passe sur le divan comme je l'ai fait, c'est de découvrir en fait que quand vous allez discuter comme ça, parler avec sur le divan, vous commencez une enquête. c'est une enquête. Et puis, à chaque séance, le puzzle est en train de se reconstituer et vous comprenez pourquoi tout à coup votre père est tombé dans l'alcool. Pourquoi tout à coup il est devenu agressif. La beauté de ma maman, la jalousie, et des choses qui étaient totalement incontrôlables. Et que je ne comprenais pas, et c'est là qu'il faut revenir à ce qu'on évoque, c'est qu'un enfant victime de maltraitance, il ne comprend pas, il n'a pas la structure psychologique pour comprendre ce qui lui arrive. Et je disais toujours, il y a même ma petite sœur qui était là, qui était témoin de ces raclées, de ces... Parce que le moindre prétexte était lui servait à me fracasser dans les escaliers. Mais il faut comprendre que les enfants, ça va pas dénoncer ses parents. Les enfants, ça protège ses parents. Et l'enfant n'a pas la structure psychologique pour comprendre. Et moi, je disais toujours, mais qu'est-ce que je pouvais faire de mieux que de rien faire de mal? Et ça, c'est une phrase, mais dans le monde entier, les enfants doivent la comprendre et l'entendre, et les parents également. Mais il faut du temps pour arriver à comprendre ce que c'est que et la maltraitance physique et celle qui suivait. C'est-à-dire que mon père venait me voir juste après dans la chambre et me disait qu'il m'aimait. Et donc je me disais, bon bah ça va, c'est que j'ai rien fait de mal alors. Voilà, c'est ça. Et en plus... moi, je vivais la maltraitance, mais ça, j'ai compris ça plus tard, que ma mère subissait également. C'est-à-dire que moi, j'étais entre les deux. Et ce titre du livre de Carole Bouquet, de Martine Brousse, il résume à lui seul ce que j'ai pu vivre. Mais moi, on est dans les années 60.
Et vous le disiez, un enfant cherche toujours à protéger ses parents.
Ah, oui.
Alors, qui vous a protégé, vous? Est-ce que votre entourage, est-ce que les voisins, est-ce que le reste de la famille savait? C'est la question de société qui se pose.
Personne.
À nous tous.
Moi, on est dans les années 60, il n'y a pas le numéro 119. Il y a une espèce d'omerta terrible. Moi, je pense que la famille doit se douter un petit peu. Mais les réactions de la famille, quand j'ai publié le livre il y a un an, ma mère est toujours là, j'ai travaillé avec elle sur ce livre. Si ça a été difficile pour ma mère, l'entourage, la famille, l'a moins bien accepté. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce qui lui prend? Il a besoin d'argent. Je vous dis les phrases que ma mère m'a sorties. Je l'ai encore vu l'autre jour. Il était à la télé, il avait le sourire. Mais c'est ce que j'ai fait toute ma vie. J'ai été le petit Paul d'enfance et partage. Comment ça va, Paul? Comment ça va, Thierry? Mais ça va bien. Avec toujours le sourire. Et puisque je dis régulièrement, aujourd'hui, un petit enfant, quand il est battu, il revient pas à l'école forcément avec un œil au beurre noir. Il va falloir, et ça j'en ai parlé avec le secrétaire d'État, avec Adrien, il faudra qu'on passe à la visite médicale, tout à coup, pour qu'on s'aperçoive que, le petit, il a des... Vous avez le petit untel, il a des bleus sur le bras, ouais. Ça serait important.
Et puis il s'absente aussi régulièrement de l'école. Enfin, il y a, bon, comme
il
ça...
Il n'est pas là quand il y a piscine.
Exactement, parce qu'on pourrait voir son corps meurtri.
Dissimulation de la part des parents, bien sûr.
Adrien Taquet, donc, en tant que secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, le rapport publié il y a quelques semaines, mois, par l'inspection générale des affaires sociales, conjointement avec les services de la justice, de l'éducation nationale, qui a fait un travail de fourmi, pointe quand même de vrais dysfonctionnements. Ouais. Déjà, si on commence par le signalement. Est-ce qu'il y a un problème de signalement? En admettant qu'il y ait des cas difficiles à repérer, est-ce qu'il y a quand même un problème de signalement à la base?
Il y a indéniablement un problème de signalement qui prend plusieurs formes. Donc, sans rentrer dans le détail, le problème de signalement, ça renvoie un peu à la discussion que nous commencions à avoir, qui est qu'il faut faire de ce sujet un sujet de société. C'est notre responsabilité à la fois individuelle et collective. Et les signalements se feront quand on aura tous conscience de la situation dans laquelle se trouve notre pays.
Pourquoi aujourd'hui des enseignants, par exemple, sont relativement fébriles à l'idée de signaler un enfant? Pourquoi ils disent que c'est compliqué pour eux?
Alors, il y a déjà rappelé tout de même que l'éducation nationale est le premier pourvoyeur, très largement, très majoritairement, des informations préoccupantes. C'est quand même, ça reste une...
Devant la santé, devant les médecins.
Les médecins, à l'inverse, et notamment les médecins libéraux qui voient beaucoup nos enfants, signalent très peu. Et je pense que la réflexion doit plus, et je dis ça de mon poste de secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, la réflexion doit probablement plus porter, ou tout autant en tout cas, sur la question des médecins que de l'éducation nationale. Je pense qu'il y a, de la part des professionnels, un souci, un risque de pouvoir dénoncer des actes qui finalement ne seraient pas avérés. Je pense que ça renvoie à un autre sujet qui est la question de la crédibilité aussi de la parole de l'enfant. Hein. Vous savez, l'enfant, ça vient d'infante, c'est celui qui ne parle pas. Donc c'est celui que l'on n'écoute pas. Et la question de la crédibilité de la parole de l'enfant est un vrai sujet dans le pays. Il y a un sujet sur la parole, il y a un sujet sur la libération de la parole.
De dénoncer abusivement.
Et la peur de dénoncer de façon abusive. Oui. Mais nous, ma position est très très claire. Au regard de la situation dans laquelle se trouvent les enfants de notre pays, à partir du moment où vous avez un doute, que vous soyez médecin, professeur, voisin, il faut effectivement le signaler.
Dans un immeuble, les cloisons sont minces, les coups ça s'entend, les pleurs répétés ça s'entend.
Absolument, hein. Mais d'ailleurs il y a des premières, vous m'arrêterez maître si j'ai des erreurs, mais de mémoire il y a une instruction qui a cours en ce moment où un voisin est poursuivi, je ne sais pas si c'est à terme, je crois que c'est à Reims, qui est poursuivi pour non-dénonciation justement.
Un médecin qui est poursuivi à Limoges pour non-dénonciation.
Donc un voisin poursuivi pour non-dénonciation, ça veut dire que dit exactement le droit, Yves Crespin ? Le signalement est une obligation ?
Et oui, et c'est l'absence de signalement qui est une violation. L'absence de dénonciation est une infraction.
Passible de quoi ?
C'est ça qui est condamnable. C'est maintenant 5 ans.
Mais autrefois, c'était 3 ans. Un voisin qui ne dénonce pas,
ça a été aggravé.
Des cris répétés dans un appartement, il est passible de
5 ans.
D'emprisonnement.
Alors,
la famille aussi, hein ?
Oui. Mmh. Alors, si vous me tendez une perche, puisque ce signalement qui est si difficile, nous essayons, nous, à l'association L'Enfant Bleu, de faciliter les démarches, puisque nous avons créé un site, une plateforme qui s'appelle Alerter pour sauver, et qui permet à toute personne, comme au 119, de pouvoir...
C'est une plateforme téléphonique, le 119, avec une quarantaine d'écoutants.
C'est une plateforme téléphonique qui donne des renseignements téléphoniques et internet.
24/7 sur 7, et sans que le numéro apparaisse sur la facture de
téléphone.
C'est très important de le souligner, comme le disait Thierry tout à l'heure.
Tout à fait. Alors moi, je voudrais insister sur quelque chose, parce que M. le secrétaire d'État fait état de la crédibilité de la parole de l'enfant. J'ai l'impression qu'on revient, excusez-moi, monsieur le secrétaire d'État, qu'on revient 20 ans en arrière, à l'époque du procès d'Outreau, par exemple. Et je dois dire, d'ailleurs, que bon, ça fait 27 ans que je suis dans ce domaine, Martine Brousse encore plus, c'est un peu décourageant pour ceux qui travaillent depuis, qui s'acharnent à essayer de lutter contre la maltraitance des enfants, de voir qu'en réalité, on en est toujours là. On en est toujours à se poser la question de la crédibilité de la parole de l'enfant. On en est toujours à essayer de mesurer la maltraitance de manière extrêmement imparfaite. Vous avez cité un enfant qui meurt tous les 5 jours. Je crains, hélas, que ce chiffre soit faux, puisque l'INSERM, en 2010, a donné un chiffre de 2 enfants par jour qui mouraient en France. On n'a aucune certitude, et j'ai déjà interpellé M. le secrétaire d'État.
Vous vous dites que c'est un problème, cette absence de...
C'est un vrai problème, parce qu'on n'a pas connaissance de la véritable... De la réalité de la maltraitance. Et je sais que M. le secrétaire d'État...
Dans un pays développé comme la France, ça peut sembler inconcevable.
Il y a un organisme qui a été créé en 2004 à l'instigation des associations qui s'appelait l'ONED, qui s'appelle maintenant l'ONPE.
L'Observatoire national de la protection de l'enfance.
Qui avait mission de collecter toutes les données statistiques de façon à ce qu'on ait une véritable vision de la maltraitance de l'enfant en France. On ne l'a pas en ce moment.
Oui, alors juge, moi je vais me permettre d'intervenir. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que la protection de l'enfance relève des départements.
Exactement.
Ce n'est pas régalien.
Voilà.
Donc, à partir du moment où ça relève, on ne peut pas mettre en cause l'ONPE parce que les départements font le choix ou non de tel ou tel logiciel. Et qu'aujourd'hui, l'ONPE se trouve confronté à 3, 4 ou 5 logiciels différents. Donc, ils font leur travail de recueil, mais il faut recouper après les données.
Pourquoi nos auditeurs comprennent bien ? Vous le disiez, le signalement, c'est très compliqué. C'est très compliqué déjà dans la tête de celui qui va signaler, ça je crois qu'on a compris, mais aussi parce qu'il y a un signalement qui se fait soit à la cellule de recueil des informations préoccupantes, c'est bien cela ?
C'est ça,
oui.
Soit
la CRIP.
Oui, soit
Auprès du procureur de la justice,
la police.
Alors, en admettant qu'un voisin, un personnel de l'éducation nationale, un personnel de santé fasse ce geste du signalement, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Où va ce signalement?
Alors, si je peux me permettre, ce qui est encore plus terrible dans le rapport que vous mentionnez, c'est qu'il souligne que ces différentes personnes que vous évoquez, ces professionnels qui sont en contact des enfants, un travailleur social, un prof, justice, tous perçoivent des signaux faibles, qu'il y a maltraitance, qu'il y a violence. Mais l'absence d'échange d'informations, l'absence de coordination entre l'ensemble de ces professionnels empêche que ces signaux faibles produisent un signal d'alerte et qui permettent de protéger in fine l'enfant. Et le rapport parle d'autant d'occasions manquées. C'est terrible.
La moitié des enfants tués étaient déjà repérés et signalés.
Oui, mais c'est surtout que notre organisation administrative institutionnelle...
Chacun dans sa chapelle.
L'absence de culture commune, l'absence de lieux de coordination, d'échange d'informations.
Ça veut dire qu'il n'y a pas
de
fichier national sur les informations préoccupantes.
Il n'y a pas de fichier national, mais il n'y a même pas. Alors, ne généralisons pas. Il y a certains territoires où ça se passe, et généralement, quand ça se passe mieux. Mais il n'y a pas de procédure qui relève du bon sens en réalité, d'échange d'informations, de coordination entre ces différents acteurs qui sont en contact avec nos enfants, qui font que l'on peut effectivement détecter une situation qui nécessite une intervention urgente. Et c'est ça que le rapport souligne.
C'est on a parlé l'autre jour qu'une famille qui a été signalée dans tel département. Vous commencez à appréhender le problème et puis vous vous apercevez qu'ils viennent de déménager.
Comme
il n'y a pas de que personne rien n'est regroupé, donc cette famille elle se balade et le petit gamin ou la petite fille.
Et ça c'est l'effet de la départementalisation qui a été voulue de ce système de protection de l'enfance par la loi de 2007 notamment, et que contre quoi nous gendarmons et nous demandons au contraire la remontée des informations par une centralisation de la lutte.
Et cette fameuse expression du secret partagé, où c'est un secret, où on peut transmettre l'information. Mais du coup, beaucoup de professionnels, dans le respect de cela, se cachent derrière ça, secret partagé. Donc j'en dis le minimum. Combien nous, dans nos unités d'accueil, les gendarmes nous disent, on ne nous a pas transmis, la CRIP ne nous a pas transmis, alors que ça pourrait nous aider au moment de l'audition de l'enfant.
Mais c'est quoi le frein là? Il y a quand même un frein psychique, psychologique dans notre société?
Certainement. Le nom dénonciation est presque un gros mot.
On lave son linge sale en famille.
Voilà, on est toujours dans les tabous. Mais je voudrais quand même insister sur le fait que les lois de 2004, par exemple, ont permis de protéger les médecins qui vont dévoiler des sévices subis par des mineurs. Or, les médecins n'en tiennent absolument pas compte. Ce qu'ils craignent, en réalité, ce n'est pas de laisser un enfant dans une situation dangereuse, c'est... les plaintes qui peuvent être déposées contre eux auprès de leur conseil de l'ordre.
Sous quel motif?
Pour dénonciation, justement. Pour avoir dévoilé, pour avoir signalé une situation qui est contestée.
Voilà. D'où l'intérêt, et c'est un travail qui va se faire avec notre ministre et son cabinet, d'avoir un texte très clair sur la façon dont les médecins doivent rédiger. Il existe déjà, mais il est plus ancien, donc il faut sans doute le réactualiser, le redire surtout. Pourquoi actuellement il y a des médecins poursuivis? C'est pas parce qu'ils ont informé ou signalé, c'est parce qu'ils ont laissé entrevoir dans ce qu'ils ont écrit que la personne dont il parle, l'adulte dont l'enfant a parlé, serait l'auteur.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Comment signaler, protéger, aider les enfants maltraités? On en parle avec nos invités et bien sûr vos appels ou vos messages postés sur WhatsApp.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine, 7 milliards de voisins.
Il faut qu'on parle aussi de la justice. À l'automne dernier, des juges des enfants en Seine-Saint-Denis ont dénoncé dans une lettre publique la dégradation de la protection de l'enfance. Quand ils ordonnent des mesures d'assistance éducative, il s'écoule jusqu'à 18 mois pour la mise en œuvre. On a près de 900 familles qui sont en attente d'assistance éducative faute de personnel, notamment des éducateurs. Alors, ce ne sont pas forcément pour des enfants qui sont maltraités, ça peut être aussi des enfants qui posent problème, des mineurs violents par exemple, mais dans ces retards, il y a forcément des enfants maltraités en danger. Est-ce qu'aujourd'hui c'est acceptable, Adrien Taquet ?
Non, c'est évidemment pas acceptable, et vous savez, c'est un autre exemple de l'absence, l'insuffisance d'informations dont nous disposons. Parce que ce qu'on retrouve au niveau des informations qui sont dans les départements et qui ont du mal à remonter, qu'évoquait Maître tout à l'heure, c'est la même chose au niveau de la justice. Et quand effectivement le tribunal de Bobigny pointe cette situation, on croit évidemment les juges sur parole et on essaie de savoir ce qu'il en est sur le reste du territoire. Et on ne le sait pas. On n'arrive pas à avoir une vision précise de la réalité de cette situation-là. Et c'est un peu compliqué quand on veut bâtir des politiques publiques de ne pas avoir une réalité de situation précise. Donc on a lancé, dès avant mon arrivée en réalité, une mission par l'inspection générale de la justice sur ce sujet-là pour avoir un état précis de la réalité de la situation dans l'ensemble des juridictions et puis la formulation de recommandations qui devraient m'être faites d'ici la rentrée. Voilà.
Est-ce qu'il faudrait davantage placer les enfants pour les protéger des violences éducatives ? Ça, c'est un réel débat. Beaucoup de citoyens pensent que quand il y a un doute sur des enfants qui subissent des maltraitances, il faudrait qu'ils soient davantage placés. Thierry Beccaro, d'ailleurs, est-ce que vous avez, j'imagine, une analyse personnelle sur ce sujet ?
Oui, c'est très simple. Et puis, alors, je vais simplifier la conversation et je vais la situer vraiment très, très terre à terre. Il m'est arrivé d'intervenir parce que j'ai assisté à un père de famille qui gifle son gamin. Pour qu'on revienne un petit peu à ce que ça représente dans la tête des gens, cette gifle, la fessée, ça n'a jamais tué personne. Moi aussi j'ai reçu des fessées, j'en suis pas mort, etc. Je suis allé voir, moi, le papa. Je suis allé le voir très, très gentiment. Je lui ai dit, voilà, c'est peut-être un petit peu violent, là. Et ce monsieur, d'abord, il m'a reconnu. Et il m'a dit, c'est le monsieur de la télé, là. Ah oui, oui. Non, j'ai dit, non, attendez, moi, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça,
hein.
C'est pas ça que je suis là. Ouais. Je lui ai dit, je trouve que là, la gifle, c'est. Voilà. Il y a peut-être moyen de faire autrement.
Mais sur le placement, est-ce que vous, rétrospectivement, c'est quelque chose qui vous aurait...
Moi, je suis un vieil enfant.
Sauvé à cette époque-là.
Mais, vous savez, j'ai fait tellement de rêves quand j'étais enfant. J'étais dans une telle incompréhension que je ne me posais même pas ces questions. C'est-à-dire, je me dis, qu'est-ce qui serait passé si on m'avait placé, alors là, voilà, avec des si et des si, moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'on m'écoute et que je puisse parler. La seule fois où un médecin est intervenu, c'est le jour où j'ai fait un malaise devant ma maman. Je suis tombé dans les pommes. Le médecin est venu, je ne sais plus ce qui s'est passé, et puis il a dû parler à ma mère, et ma mère est venue me voir gentiment, elle m'a dit « Maman, qu'est-ce qui t'arrive ?» Le médecin m'a dit « Parce qu'il pensait que tu nous aies, qu'on t'aime pas. » Il pensait que... En gros, donc je pense que le médecin, il a dit quelque chose, ça s'est arrêté là. Alors vous dites, dans les années 60, ouais. Le placement
on
et
est
tout
dans
ça...
Ce qui est important, quand la voix de l'enfant revendique la mise à l'abri, elle n'a de sens que si, à partir de cette mise à l'abri, on reconnaît l'enfant comme victime et que l'on démarre l'ensemble de tout ce qui va lui permettre, que ce soit d'abord les soins, mais aussi les enquêtes préliminaires, une audition accompagnée, protégée, sécurisante, et qu'on l'accompagne tout au long de la procédure. Si c'est juste une mise à l'abri, comme malheureusement il y a aujourd'hui à l'aide sociale à l'enfance, ils sont plusieurs milliers d'enfants mis à l'abri parce que famille maltraitante, mais l'enfant, il n'est pas reconnu. Or, il ne peut se reconstruire que s'il est reconnu.
Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'enregistrement d'audition effectuée par la justice ? On a quand même progressé sur ce terrain-là.
Nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Vous savez que dans de très nombreuses juridictions, les auditions se font dans des commissariats de police ou des gendarmeries. Ce sont les seules victimes et les femmes violées qu'on amène comme victimes dans des gendarmeries ou des commissariats de police. C'est pour ça qu'on a écrit ce livre avec Carole. Hein, parce qu'on a voulu aussi montrer qu'il existe. Et c'est pour ça que nous fondons beaucoup d'espoir sur notre secrétaire d'État. Parce qu'il existe aussi beaucoup de choses qui fonctionnent aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est que nous puissions les démultiplier. Le recueil de la parole de l'enfant avec des professionnels formés, enquêteurs, médecins, magistrats, se fait dans plus de 60 juridictions.
Et grâce, et Martine Brousse, et pardon, maître Monet, beaucoup grâce à la voix de l'enfant, en l'occurrence, qui a monté ces dispositifs d'unités d'accueil médico-judiciaire pédiatrique qui permettent de recueillir et de protéger la parole de l'enfant. C'est effectivement une centaine de juridictions et on travaille à sa généralisation sur l'ensemble du territoire.
Sur les placements par l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance, comment se situe la France par rapport à d'autres pays d'Europe ? Est-ce qu'on est un pays qui place beaucoup les enfants quand ils sont signalés ?
On est un pays qui a très longtemps, arrêtez-moi si vous êtes en désaccord, très longtemps privilégié le lien biologique.
Et oui.
C'est-à-dire où on essayait de maintenir vaille que vaille, oui, quand bien même des parents étaient toxiques, vaille que vaille le lien biologique.
Trop, selon vous, ou pas ?
C'est difficile à porter un genre comme ça. Je pense qu'on est, depuis la loi de 2016 notamment, donc dans les textes, mais les textes, il y a les textes d'un côté, il y a la pratique ensuite. Mais les textes, la loi de 2016, en parlant notamment, effectivement, et en partant de l'intérêt supérieur de l'enfant, rééquilibre, me semble-t-il, cette question-là. Mais maintenant, c'est dans les pratiques et dans les usages. À la fois des travailleurs sociaux, dans les évaluations qu'ils vont faire, et puis dans le cabinet du juge, quand la décision sera prise.
Quelles sont les pratiques que vous observez dans le reste de l'Europe, Adrien Taquet ?
Il y a des pays dont on le sait qu'ils retirent, qu'ils mettent à l'abri l'enfant de façon bien plus rapide, parfois considérée un peu comme brutale. Je pense notamment à l'Angleterre, en l'occurrence, qui est souvent citée comme exemple. Et moi, permettez-moi d'insister sur autre chose. Je rentre de Finlande, et dans ces sujets-là, effectivement, la mise à l'abri est importante, mais gardons à l'esprit qu'on a une vraie petite révolution culturelle à faire en France, sur la question de la protection de l'enfance, mais aussi plus largement sur la santé. C'est la révolution de la prévention. Parce que la première façon de protéger les enfants, parfois, c'est de mieux accompagner les parents dans leur projet d'être parents, c'est-à-dire dès avant qu'ils soient parents. Et ça, là-dessus, c'est encore insuffisant. On travaille sur ce sujet. C'est pour ça que je me suis rendu en Finlande il y a quelques jours, parce qu'en Finlande, depuis plusieurs dizaines d'années, ils travaillent sur ce sujet-là. Dès le 4e mois de grossesse, la famille rentre dans un véritable parcours qui va aller jusqu'aux 2 ans de l'enfant, même aux 4 ans de l'enfant, qui va être jalonné d'une quinzaine d'entretiens avec une sage-femme, un psychologue, etc. Où on va interroger la santé de l'enfant, mais pas que sa santé. Et c'est ça aussi la petite deuxième révolution qu'on doit faire dans notre pays. Une approche pas uniquement médicale, mais aussi en termes d'éveil, d'éducation, de développement. Et puis ça va être l'occasion d'aller faire une visite à domicile et de voir dans quel environnement l'enfant est en train de naître et se développer. Voilà. Donc c'est tout ça auquel on réfléchit, c'est fondamental.
Ce n'est pas le cas en France, hein, puisque les visites de l'aide sociale à l'enfance à domicile, il faut vraiment qu'il y ait des signalements graves.
On n'est même pas encore à l'aide sociale à l'enfance.
Oui, oui.
On est dans le système pour tous. On est plutôt dans ce que faisait il y a quelques années la PMI, la protection maternelle et infantile, qui avait cette vocation-là, qui allait à domicile, qui n'a plus les moyens de le faire. On réfléchit à ça aujourd'hui, et autour de cette idée des 1000 jours de l'enfant. C'est les 1000 jours qui sont fondamentaux. C'est là où tout se passe, c'est là où, en termes de santé de l'enfant, d'éveil et développement, et d'inégalité sociale aussi, parce que c'est là où elle se forge et où elle se creuse, c'est là où tout se passe, c'est là où il faut que l'on surinvestisse.
Surinvestir sans risque de stigmatiser certaines populations ?
Sans stigmatiser,
parce
on est
ça
là...
Ça a fait autrefois l'objet de débats politiques, notamment sous Nicolas Sarkozy.
Vous avez raison, mais moi je pense qu'il faut être dans une approche universaliste, universelle,
ça va coûter très cher si c'est pour tout le monde.
Et il y a des parents
qui... La maltraitance, ça touche tous les milieux.
Mais bien sûr. Tous et il y a des parents qui ont plus besoin que d'autres, mais il faut être dans une approche universelle.
Qu'est-ce que ça va être qu'être père, ce que c'est qu'être mère. Parce que moi, si je prends mon cas, dans les années 60, on est parents à 20 ans, 22 ans. parfois c'est on fait comme on peut quoi. Hein. On n'a pas de la psychologie. Madame Dolto a pas est pas est pas encore intervenue. Il y a encore il y avait beaucoup de travail.
Yves Crespin.
J'adhère complètement à ce que vient de dire Monsieur Taquet. Il y a effectivement énormément de travail à faire. Et je constate malheureusement, malgré les unités d'accueil qui ont été créées par la Voix de l'Enfant, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire auprès de l'enfant. Je voudrais insister sur des principes qui doivent nous guider en permanence, à savoir, évidemment, l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit pas contrebalancer l'idéologie du lien familial. Hein. Ce qui compte avant tout, c'est l'enfant. Et pas le lien père-fille ou parent-enfant. Hein. C'est l'intérêt de l'enfant. Donc il faut qu'il se soit analysé. Autre principe important, le principe de précaution. Au nom du principe de précaution, on ne peut pas se permettre de mettre un enfant, de laisser un enfant en danger. J'ai l'habitude de dire que je préfère qu'on se trompe sur une situation plutôt que de laisser un enfant dans une situation de danger. On peut se tromper, mais on a maintenant des outils comme celle comme ceux de la Voix de l'Enfant, comme l'Enfant Bleu aussi. Il y a
Vous portez participer dans des procès, oui. Tous les deux, hein, avec vos différentes associations.
Et quelquefois ensemble.
Voilà, et souvent
avec
ensemble.
Un même avocat.
Avec le même
exactement.
Mais
démultiplier les cours, alourdir les cours d'assises.
Voilà. Pourquoi d'ailleurs c'est nécessaire que des associations se portent partie civile? Est-ce que la justice est trop clémente, prononce des peines trop lourdes? Quelles sont vos positions? Est-ce qu'il faut davantage sanctionner, davantage accompagner les familles sont maltraitantes?
Non, sur ce plan-là, on ne peut pas reprocher à la justice de ne pas condamner. Et si nous intervenons dans les procès, c'est d'abord parce que c'est la mission, par exemple la mission de l'association de l'Enfant Bleu, c'est d'être toujours là où un enfant a été victime. Ensuite, nous utilisons ces procès pour en tirer des leçons. C'est grâce à la présence que nous avons eue au fil des années et des procès que nous avons pu faire des propositions. C'est en 2004, par exemple, la création du fichier des délinquants sexuels, qui n'existait pas auparavant et que nous avons demandé parce que on s'est aperçu que c'était nécessaire. Et c'est à l'occasion de ces procès qu'on s'en est aperçu.
Les unités, donc, c'est aussi ça. Hein, sur
absolument.
Le recueil de la parole de l'enfant, on est parti de ces procès, des dysfonctionnements.
Voilà, donc c'est essentiel que les associations comme la Voix de l'Enfant ou l'Enfant Bleu participent à ces procès. Et puis, disons-le, c'est une caisse de résonance. C'est évident que nous sommes dans ces occasions-là, en mesure de faire passer des messages qui sont importants pour la protection de l'enfance.
Par contre, si je peux me permettre, moi je veux quand même souligner qu'actuellement les associations rencontrent les plus grandes difficultés lorsqu'elles sont parties civiles dans le cadre d'une instruction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui et pas plus tard qu'hier, on nous refuse d'avoir accès au dossier, en nous disant tant que le juge d'instruction ne vous a pas reçu, vous n'aurez pas accès. Ça fait trois fois qu'on demande le rendez-vous. Ça fait trois fois qu'on ne revient.
C'est la loi qui le prévoit. Il va falloir
donc
changer la loi.
Donc le blocage, on ne vous reçoit pas.
Pourquoi la justice traîne des pieds dans le fait de travailler avec vous?
C'est la réponse qu'on voudrait avoir aujourd'hui. Mais je le souligne parce que c'est insupportable. Ouais. On n'est pas là pour aller dire que la justice fonctionne mal. Au contraire, combien de fois au moment de l'instruction, moi je me souviens dans l'affaire de la petite Marina du Mans, cette grande affaire dont toute l'opinion publique se souviendra, hein, parce que nous étions partie civile, ça a permis aussi d'avancer dans la recherche de la vérité, de la manifestation de la vérité devant la cour d'assises. Donc nous sommes là parce que nous sommes dans une démarche complémentaire de celle de la justice et pas en opposition avec la justice.
Vous restez avec nous et bien sûr je vous redonne le numéro de téléphone, les voisins, les voisines, si vous souhaitez contribuer à ces discussions sur l'enfance maltraitée. 33 1 84 22 71 71, on écoute le message d'un voisin du Sénégal dans quelques instants.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Bonjour 7 milliards de voisins, je m'appelle Mohamed Tchoubou, j'appelle le Sénégal à Matam. Moi je parle en tant qu'éducateur préscolaire. Chez nous ici à Matam, des fois je rentre dans certaines maisons, je trouve des enfants, quand je regarde cet enfant-là, je sais physiquement que c'est un enfant qui a des problèmes, qui souffre. L'éducation de l'enfant manque, la propreté de l'enfant manque, et l'enfant ne dort pas bien, et l'enfant joue avec des œufs qui ne s'adaptent pas à son environnement. Il joue des œufs qui ne s'adaptent pas à son psychologie mentale. Quand je vois les écoles si ça trouve que c'est un enseignant qui ne connaît pas la psychologie de l'enfant, qui ne connaît pas le problème de l'enfant, et là, l'enseignant va prendre un bâton, une cravache, va taper les enfants. Donc, je pense que si l'enfant commence à grandir avec ça, à chaque fois on le frappe, à chaque fois on le frappe, ça devient lui une routine. Et quand il grandit, il devient un délinquant. Il devient un délinquant.
Peut-être un mot de réaction, peut-être vous, Thierry Beccaro, parce que beaucoup de gens pensent qu'un enfant qui a été maltraité va devenir un enfant violent et délinquant. Vous n'êtes pas devenu ni un délinquant ni un enfant violent. Il est vrai que les enfants violents ont souvent été maltraités, néanmoins. Comment vous réagissez?
Ça, ça a été la grande peur de ma vie, une des peurs de ma vie, parce que ce genre d'histoire, ça vous fait des adultes assez brisés. C'est pour ça que c'est bien qu'on fasse cette émission, pour que tout ça évolue et que on ait des enfants qui deviennent des adultes en pleine forme. Mais j'ai tellement peur d'être papa, quoi. Et même ma première fille, qui a 34 ans aujourd'hui, je me disais, pourvu que ce soit une fille, pourvu que ce soit une fille. Parce que j'avais peur de reproduire ce que j'avais vécu avec mon père. Et puis j'ai fait le travail qu'il fallait. Alors que ça soit un travail sur le divan, et souvent on m'a dit, ouais, mais tout le monde n'a pas les moyens de se payer une psychanalyse et tout. Mais je réponds gentiment, mais fermement, moi cet argent que j'ai placé dans ce travail, je ne l'ai pas mis ailleurs. Mmh. Et je l'ai mis pour essayer de m'en sortir. De marcher tranquillement mais sûrement vers la résilience.
Et surtout devenir père à votre tour.
Je l'ai fait pour moi, pour mon entourage.
C'est toute la complexité d'être père quand on a été enfant maltraité.
Et maintenant j'ai 3 enfants et je n'ai jamais levé la main sur mes enfants. Et je pense que ce sont des enfants qui font un joli parcours et que autorité, c'est pas autoritarisme.
Adrien Taquet, vous avez annoncé en mars, au moment où vous avez démarré la concertation, un pacte pour l'enfance d'ici l'été, on est le 6 juin. Qu'est-ce qui se profile?
Alors, il y a plusieurs choses qui se profilent. Ce que vous évoquez s'agissant de la concertation, c'est vraiment sur l'aide sociale à l'enfance. Hein, donc, notre système institutionnel de protection de l'enfance, qu'on a évoqué au cours de nos discussions. Effectivement, on a lancé une grande concertation avec les départements. Martine Brousse a rappelé que c'était de leur responsabilité depuis 1983 et les lois de décentralisation, mais aussi avec les associations, évidemment, pour le rôle qu'elles jouent. Les associations, notamment d'anciens enfants placés, et puis les administrations, les professionnels, etc. Avec la mise en place de 6 groupes de travail, un qui porte sur la question des ruptures de parcours, parce que ces enfants qui ont souvent une rupture dans leur vie, souvent par du temps traumatisante, quand ils vont être dans le système de protection de l'enfance, vont en connaître encore 6 ou 7.
Ouais,
ils vont changer
6
ou
7
fois de placement, etc. Et pour les cas les plus complexes, ça monte jusqu'à 12 ou 13. Donc, premier sujet là-dessus. Deuxième groupe de travail va porter sur la question des assistants familiaux. Ce sont les fameuses familles d'accueil. Il y a toute une réflexion à avoir là-dessus. On a un troisième groupe sur la question de la scolarisation des enfants, de l'aide sociale à l'enfance. Gros problème de déscolarisation de niveau scolaire. Une réflexion aussi sur les enfants en situation de handicap. De l'aide sociale à l'enfance. 25% des enfants protégés, placés, sont en situation de handicap. Et ce sont des enfants qui sont au croisement du social et du médico-social. Et dans notre pays, qui aime bien fonctionner en silo, quand vous êtes au croisement de deux choses, ben, généralement, vous n'êtes nulle part, en réalité. Donc, il faut qu'on invente des nouvelles façons de prendre en charge ces enfants. Bon, bref.
Avec quels moyens? Quand vous nous parliez, par exemple, de la prévention et des 1000 jours pour tout le monde, pour ne pas stigmatiser, on se dit, mais avec quel budget, avec quels moyens? Tous les professionnels de l'enfance se demandent s'il va y avoir des moyens alloués.
Alors, si vous...
Et une réforme aussi de l'aide sociale à l'enfance.
Alors, si vous me permettez justement de conclure sur l'aide sociale à l'enfance, et je reviendrai, si vous voulez, sur les 1000 jours tout à l'heure, mais sur cette concertation, donc effectivement, où il y a aussi un groupe de travail sur la gouvernance, on revient à la question des statistiques de tout à l'heure, sur la transparence, sur la qualité de service, on revient à la question du fichier national. Bon, on me remet, ces différents groupes de travail me remettent leurs conclusions, leurs recommandations d'ici une quinzaine de jours, et je ferai des premières annonces tout début juillet. Moi, quel que soit le sujet, quelle que soit la politique publique, je n'écarte pas les yeux des questions de moyens, mais j'aime ne pas rentrer en mêlée par la question des moyens. Parce que quand on rentre en mêlée par la question des moyens, qu'il s'agisse de la protection de l'enfance, de la réforme de la SNCF ou de la réforme des retraites, c'est la meilleure façon généralement pour ne rien faire et ne pas se remettre en question, ne pas se challenger, nous, pouvoir public, mais aussi l'ensemble des parties prenantes au système. Donc, voyons déjà, donnons du sens... Voyons le sens nouveau que l'on veut donner à l'aide sociale à l'enfance dans notre pays. Et puis, c'est de ma responsabilité ensuite de mettre les moyens qui seront nécessaires en face. Ça vaut pour l'aide sociale à l'enfance. Et puis, pour les questions le volet plus prévention, les 1000 jours que l'on évoquait tout à l'heure. Là, il y a une grande réflexion qu'on va initier. Et puis, là, de la même façon, on verra quels moyens il faudra mettre en face.
Qu'est-ce que vous attendez, vous, les associations, très concrètement? Il nous reste vraiment quelques minutes. Les points les plus urgents que vous demandez, Monsieur Crespin?
Une révolution. Monsieur Taquet l'a évoqué tout à l'heure. Une révolution idéologique. Mais je pense qu'il faut une révolution du système de protection. Il a fait faillite, disons-le. Le défenseur des droits a édité un rapport il y a peu en disant que la situation du système de la protection de l'enfance était très inquiétante. Il faut l'entendre, le défenseur des droits, qui est obligé d'intervenir dans certaines affaires. Une révolution, ça veut dire qu'il faut revenir sur ce système décentralisé de protection de l'enfance. Je pense que...
Et c'est, pour que l'information circule mieux et qu'on soit mieux informé sur les maltraitances.
Je pense que M. Taquet en est convaincu et ça, ce sera peut-être...
M. Taquet se rappelle aussi, même s'il était très très jeune, qu'à l'époque de la DAS, avant les années 80, quand c'était l'État qui gérait ça, la situation n'était pas bien meilleure. Donc je pense qu'il faut une grande humilité par rapport à cette question-là. C'est la seule chose dont je suis convaincu.
C'est qu'il y a un autre problème, c'est effectivement celui des moyens, que vous ne voulez pas entendre, mais
je pense que comme cela, nous l'avons souligné tout au cours, et dont on vous remercie, de cette émission, il faut une interministérialité en matière d'enfance en danger et d'enfance maltraitée. Interministérialité, tant que l'ensemble des ministères de tutelle ne mettront pas en commun leurs informations, leur volonté politique et leur formation, nous aurons une difficulté. La deuxième chose, c'est celle aussi dans le repérage. Parce que sans outils communs sur l'ensemble national du territoire français, avec un référentiel d'évaluation, de repérage et d'évaluation pour l'ensemble des professionnels, nous n'arriverons pas à faire un véritable repérage. Et puis aussi, appeler vos auditeurs et l'opinion publique à dire occupons-nous de ce qui ne nous regarde pas. Il y a un numéro vert national qui est le 119, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il ne figure pas sur
avec une quarantaine d'écoutants relativement débordés.
Et nous vous souhaitons que ce numéro vert doit être renforcé pour qu'il puisse décrocher un maximum d'appels. La priorité est donnée aux enfants. Nous y étions il y a encore quelques jours avec Madame Macron. Elle a pu vraiment être en double écoute sur de l'appel du pré-accueil, mais nous nous sommes aperçus que beaucoup d'appels restaient sans réponse. Donc là, nous en appelons non seulement au secrétaire d'État, parce que là, c'est une volonté aussi politique et gouvernementale de renforcer ce service public.
Ouais, surtout si on incite effectivement les citoyens à faire leur devoir.
Thierry Beccaro. Les choses. J'ai témoigné il n'y a pas très très longtemps pour l'UNICEF sur un site web brut, et je l'ai fait le plus sincèrement du monde. Et on en est à 13 millions de vues. Voilà, je pense que j'ai résumé.
Ça, c'est un message pour les politiques qui pourraient imaginer que ce n'est pas un vrai sujet électoral, par exemple.
Je pense que c'est vraiment ce qui nous a permis de nous rencontrer avec M. Taquet, retrouver Martine Brousse et continuer à se donner la main avec les associations. C'est incroyable, 13 millions, c'est un peu plus que la Belgique. J'ai regardé comme ça pour m'amuser. Si on réunissait tous ces gens-là, qu'ils aient été victimes, qu'ils soient concernés, qu'ils soient intéressés. Voilà ce qu'on va essayer de faire, c'est ça, c'est de se donner la main. Je dis pas pour remplir complètement le vase, mais si chaque petite goutte peut arriver. Peut-être à le faire déborder, on aura gagné la partie.
De ces gouttes-là, d'ailleurs, Thierry Beccaro, vous êtes ambassadeur de l'UNICEF. Je le rappelle, vous avez publié « Je suis né à 17 ans » aux éditions Plomb. Merci beaucoup d'être venu en direct.
C'est maintenant en poche, maintenant dans les éditions Mon Poche.
Merci à
vous. C'est moi qui vous remercie.
Merci Adrien Taquet, secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Merci. Alors on attend les mesures qui seront annoncées début juillet. Martine Brousse, La Voix de l'Enfant, vous publiez Enfants maltraités, occupons-nous de ce qui ne nous regarde pas, aux éditions Cherche Midi. Et merci à vous Yves Crespin pour l'association L'Enfant Bleu. Je rappelle que vous êtes avocat.
Je rappelle le site.
Tout à fait,
rappelez-le. Alerté pour sauver. Qui a été mis en place par l'association L'Enfant Bleu.
Pour diriger les citoyens qui veulent signaler. Et puis le numéro 119, trop souvent débordé, mais néanmoins avec des écoutants largement formés. Demain, 7 milliards de voisins, comme chaque vendredi, on parlera éducation. Les ateliers de philosophie à l'école primaire se développent dans plusieurs pays. Mais est-ce que c'est vraiment de la philo? Comment aborder le pouvoir, la raison ou l'éthique avec des enfants de 8 ans? Et pour développer, quelle réflexion? À demain les voisins.